L'énume, l'update, l'essentiel de la tech. Sur place ou à emporter.
La technologie avance, on vous aide à la rattraper. Bonne année tout le monde, c'est Julien et cette semaine avec l'ami Thibault, on revient sur l'actu ciné-série ainsi que les tops et les flops de 2025. Technology. Comment on se retrouve, dis donc ? On s'était vu il y a quoi ? Il y a 6 mois pour parler un peu ciné, mon cher Thibault.
C'est vrai.
Gomez Léal, comment ça va ?
Tous les 6 mois dans notre séance.
C'est ça. Enfin, un peu le point
biannuel
de cette année. On a fait le mi-parcours, donc on va parler un petit peu de ce qui s'est passé en 2025 au total. Déjà, pour commencer, est-ce que perso, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, puisqu'on parlait surtout de ton métier, de ton rôle ici au sein de la rédaction des numériques. Dans le quotidien, est-ce que tu mates plus les films, les contenus en salle ou à la télé, ou est-ce que tu restes très SVOD à regarder un peu, binge-watcher sur ton smartphone, sur ton ordinateur, hors travail ?
Hors travail, c'est vraiment plus en SVOD streaming, parce qu'effectivement, au jour le jour, les films que je traite, on va dire, pour le travail, j'ai la chance de les voir en salle, parfois en projection de presse, etc. Et du coup, je rattrape parfois, dans ma vie privée, 2-3 films comme ça, mais souvent, chez moi, je lance un film sur une plateforme et... Et je rattrape souvent effectivement des films qui ont quelques années. Ou quelques
Plus du replay, limite.
C'est plus du replay, voilà, pas trop effectivement. Voilà.
Si tu devais résumer 2025 côté ciné, série, ce serait quoi au niveau de la tendance, un peu l'ambiance générale ?
une année de récession.
Ouais.
Non, on est peut-être sur une... Mais ça, c'est pas forcément propre à 2025, mais peut-être aussi depuis... On est encore dans une continuation post-Covid où on va dire beaucoup de franchises ou de modèles ont besoin de se réinventer. Là, je pense effectivement, on peut penser au modèle du Marvel qui a sorti 3 films cette année. Il n'y en a aucun qui a véritablement marché ou fait des étincelles. Et finalement, ce qui sort un petit peu du lot, cette année a été, je trouve, sympathique en termes de surprises. On peut penser à Sinners au cinéma ou à Évanoui ou des petits films comme ça qui ont, ou des films comme ça qui ont osé des choses. Et pour le coup, il y a eu un public qui a été au rendez-vous. C'est jamais évident d'avoir un public qui est au rendez-vous de ces...
Souvent de manière inattendue.
Toujours de manière inattendue. Même aussi du côté du cinéma français, il y a des films un peu sympas. Mais c'est vrai qu'on est plutôt sur... L'année dernière était une grosse année cinéma, et en France et dans le monde. L'année prochaine sera une grosse année aussi avec énormément de films très attendus. Cette année, c'était une année peut-être un petit peu moins spectaculaire en termes de grands rendez-vous.
Tous les exploitants s'accordent à dire, en tout cas pour le cinéma, que ce n'était pas une année folle.
C'était pas une année folle.
Et qu'ils attendent beaucoup l'année prochaine.
Voilà, exactement. Ouais. Donc, c'est un peu une année entre deux où il y a eu beaucoup, on va dire, de valeurs sûres et où on va dire que les gens attendent surtout ce qui arrive l'année prochaine, quoi.
Alors ça, c'est la partie cinéma, exploitation en règle générale dans les salles. Mais on a vu aussi exploser les plateformes avec énormément de contenu. C'est limite prioritaire, j'ai l'impression. Et ça s'est accompagné de hausses de prix. Comment t'expliques ces hausses qui se sont un peu enchaînées ?
Alors là, en termes de hausses de prix, il y a surtout effectivement Disney en septembre et il me semble HBO...
qui avait caressé les gens dans le sens du poil avec une offre à 2,99€.
Tout début de l'année, en janvier,
voilà.
en France. Et après, effectivement, c'est toujours des décisions internationales et après qui sont répercutées dans les semaines qui suivent en France, dans l'Hexagone. Mais c'est, on va dire, c'est une décision... Disney Monde en général. Disney effectivement a augmenté ses prix. HBO Max a également rehaussé ses prix. En fait, tout ces, ce qu'on a là, c'est une répercussion, mine de rien, du poisson pilote qui est Netflix, qui également a rehaussé, qui a augmenté ses prix, pas cette année véritablement, mais l'année dernière. Et du coup, effectivement, tout le monde s'aligne, on va dire, sur le poisson pilote qui est Netflix. Donc voilà, et c'est une hausse de prix qui, tant que tout ce monde-là n'a pas trouvé un point de bascule où ils vont commencer à perdre en masse des gens et où les gens vont continuer à payer, ils vont commencer doucement à augmenter les prix pour voir où est justement ce point de bascule. Et ce point de bascule, il va être constamment en mouvement, tant et tant que, surtout si demain, il y a de plus en plus de fusion, par exemple, entre Netflix et Warner, Netflix et HBO, voilà.
Parce que toi qui es le nez dans les datas, on est voisins quand même au boulot, je te vois souvent dans les chiffres, t'aimes beaucoup ça. Est-ce que tu sens quand même, ou est-ce qu'il y a des chiffres qui permettent de constater qu'il y a peut-être... des abonnés qui s'en vont ou en tout cas peut-être une désertion potentielle pour une plateforme plus qu'une autre.
Alors Disney sur un moment un peu compliqué de sa non histoire Disney Plus parce que effectivement après on va dire une grande période d'augmentation d'abonnés, ils ont tapé un plafond depuis un an là et là ils commencent doucement à perdre des abonnés. Donc là Bob Iger il a un souci qui est que Disney Plus n'arrive plus à attirer de nouveaux abonnés véritablement.
Qui est l'ancien patron de Disney qui a été rappelé à la rescousse
après Bob Chapek et qui a du coup revenu et du coup Disney lui est en train effectivement de perdre un peu en souffle Disney+, la plateforme de streaming. Donc là, eux, ils vont devoir trouver des solutions à ce niveau-là. Mais c'est complexe, hein, Disney, c'est un énorme paquebot. De son côté, Netflix, lui, il est sûr. Personne n'arrête Netflix parce que.
Oui, on va en reparler après.
Voilà, parce qu'au-delà, effectivement, de toujours. Alors, eux, ils ne reportent plus, ne transmettent plus les données des abonnés. Mais ils sont quand même sur une. Ils ont trouvé leur équilibre financier et leur équilibre, on va dire, de modèle. Et eux, ils ont. Cette année encore, ça a été une référence à la fois en série et à la fois en film parce que tous les mois, ils arrivent avec. Des programmes qui, au-delà de leur qualité intrinsèque, chacun jugera, font l'événement, mine de rien, assez régulièrement. Alors que Disney, HBO, Prime et autres, ils ont aussi des séries événements, mais c'est moins constant que Netflix. Netflix, ils maintiennent quand même un certain niveau et mine de rien, ils restent encore une fois à l'évidence, toujours en 2025.
Est-ce qu'à la manière d'un consommer bio, est-ce qu'on paye plus pour voir mieux?
Ça dépend. Je trouve que pour effectivement parler de tous les catalogues tous les mois, pour effectivement faire des comparatifs tous les mois entre tous les gros, donc effectivement Netflix, HBO, Canal+, Prime, Disney+, quand tu vois les 5 gros, il faut avouer que Netflix sort quand même toujours sa tête du paquet, du lot, on va dire, et Netflix propose l'offre la plus intéressante.
Et celle là, qui est peut-être la plus prestigieuse, parce qu'on a quand même des gros noms qui maintenant s'associent à Netflix et proposent leur contenu, je pense par exemple à Guillermo del Toro.
Voilà, là, on est en plus à la fin de l'année, donc on est en pleine award season, donc là, il y a tous les films que Netflix veut proposer aux Oscars, donc effectivement, on a une fin d'année assez prestigieuse. On peut penser effectivement à Frankenstein, on peut penser à Couteau tiré 3, on peut penser à Train Dream, on peut penser à J.K. Lee avec George Clooney et Adam Sandler, donc à tous ces films effectivement qui vont être plus un peu autéristes on va dire, mais dans lequel effectivement Netflix a mis des piécettes et cette
pour
année
pour s'acheter une street credibility en fait
et pour diversifier, pour proposer un catalogue qui va aller gratter un audimat on va dire, un public un peu plus large, genre moi, toi, voilà, et pas forcément juste les ados. C'est vrai que cette année, c'est aussi Squid Game, aussi Squid Game qui s'est terminé, c'est aussi Stranger Things qui s'est terminé. Donc c'est toujours une année, une plateforme voilà, qui est quand même toujours au rendez-vous, même si moi je trouve que l'une des plateformes intéressantes de cette année, ça a été HBO Max, qui régulièrement aussi a réussi à venir poser comme ça des séries un peu références dans l'année, et parmi les meilleures séries de 2025.
Est-ce qu'on peut dire que Netflix, HBO Max et dans une moindre mesure Apple TV+, c'est les plus prestigieuses des plateformes?
Je trouve que c'est les plus qualitatives, moi, cette année. Effectivement, c'est au-dessus du lot. Après, encore une fois, c'est corrélé aussi à mes goûts. Hein. J'imagine que si j'avais 15 ans et que j'étais un jeune ado de 15 ans, je penserais différemment. Mais je trouve qu'effectivement, Prime Video, c'est vraiment le fond du panier. Ils n'ont vraiment pas beaucoup d'arguments cette année. Ils doivent avoir 2-3 séries pertinentes dans l'année. Le reste, c'est quand même très, très pauvre en termes de médiocre, en termes de qualité. Disney+, ils vont avoir des événements intéressants. On a vu Alien Earth, on a vu Thousand Blows plutôt dans l'année. On a,
et bref, toujours dérivé de franchises très connues.
Voilà, plein de séries assez, avec des propositions intéressantes. On a la série de Pixar au début d'année aussi. Mais c'est quand même... si on a 3-4 séries Disney intéressantes, vraiment de qualité dans l'année, c'est bien. Sinon, c'est compliqué, quoi.
Cette hausse de prix, elle a aussi favorisé une sorte de montée des offres avec publicité. Ouais. Est-ce que pour toi, c'était le bon compromis ou c'est peut-être le retour d'une télébis?
C'est le bon compromis pour Netflix et compagnie. Je pense qu'effectivement, c'est le modèle qui permet, on va dire, aux streamers de trouver un point d'équilibre entre les abonnements, effectivement, et pour aller chercher notamment des gens qui ont moins les moyens. Je pense que c'est un bon point d'équilibre pour eux. Après, il faudrait demander aux consommateurs. Je trouve que c'est intéressant d'avoir un accès pour 6 balles, 7 balles, 8 balles. Après, c'est toujours une question de mesure, de publicité, et chacun trouvera midi à sa porte. Mais ça peut être, je trouve que ça peut être effectivement une formule qui fonctionne. Encore une fois, il ne faut pas que demain, cette offre d'entrée, on va dire, coûte un bras, ça n'a aucun sens. Elle a du sens que si elle ne coûte pas cher.
Et donc, parmi les bons plans qu'on conseillait, nous, sur le site, c'était la plateforme Split, qui permettait de partager avec des gens des abonnements. Le problème, c'est qu'avec l'impossibilité de partager ses comptes maintenant chez certaines plateformes, dont Canal+, Netflix, ça devient compliqué de...
Ouais, alors après, c'est vrai que Netflix avait déjà effectivement initié ça l'année dernière, il y a 2 ans. Ces restrictions de partage de comptes, ils avaient dans la foulée proposé une option pour rajouter un utilisateur supplémentaire. Ouais. Donc finalement, ça avait permis à Split ou à ShareSub ou à d'autres plateformes de co-abonnement de proposer, on va dire, une continuation de leur service comme ça de co-abonnement. Là, Canal+ a annoncé évidemment les restrictions de partage de comptes également dans ses conditions d'utilisation. Il faut voir comment ces restrictions prennent véritablement acte dans les faits parce que je ne pense pas que Canal+ est vraiment en position d'aller embêter ces 10 millions d'utilisateurs qui, eux, historiquement, sont installés avec un système où tu as parfois 4 personnes sur le même compte et qui sont effectivement pas tout le temps dans le même foyer. Je ne sais pas, encore une fois, il faut voir, parce que Netflix, on l'a vu, s'active, s'est activé, et les gens ont quand même trouvé, et ça fonctionnait malgré tout. Il faut voir comment ça fonctionne, comment cette restriction prend acte chez HBO ou chez Canal+, et si elle est vraiment contraignante. Mais je suis pas sûr que... Je pense que Canal+ a pas intérêt vraiment à embêter les gens à ce niveau-là, mais l'avenir nous le dira. Pour l'instant, ils ont juste mis ça dans les conditions d'utilisation. Rien n'a encore été trop acté pour l'instant.
Donc on le disait en début d'interview, et déjà, bonne année.
Bonne année.
Mais oui. Bon, bonne année le jour où cet épisode sera en ligne. L'année 2025 étant terminée, c'est le moment de faire le bilan. Est-ce que tu pourrais me sortir ton top 3? Alors, un top 3 professionnel, celui du site, des films que tu as pu voir pour le site, films ou séries, films et séries, comme tu préfères. Et après, j'aimerais aussi un ou deux tips, mais vraiment des trucs à toi.
Alors, après, pour commencer par peut-être mon top 3 ciné, c'est vrai que nous, on a fait un top sur le site, on a fait un top 10 de plein de films assez intéressants sur le site. Moi, c'est vrai qu'il y a, comme ça 2-3 films qui m'ont vraiment touché en plein cœur. Le 28 ans plus tard, qui était donc la suite de 28 jours plus tard, le retour de Danny Boyle et Alex Garland à cette franchise, cette saga d'infectés, de zombies infectés. Le fait qu'ils proposent comme ça un film sur l'amour et la mort, sur le sublime et l'horrible, sur ce cadavre exquis en quelque sorte. J'ai trouvé ça magnifique et c'est vrai que c'est un film qui m'a foudroyé, donc c'est vrai que il est très très haut dans ma liste. Après, moi j'aime beaucoup effectivement, vous allez le voir, l'horreur, donc le fantastique, mais Évanoui, qui est aussi un film qui a fait sensation cet été, un petit film à 20 millions de dollars et qui a subjugué les salles américaines et qui a aussi montré à quel point on pouvait arriver avec une histoire originale et proposer quelque chose d'assez intéressant, donc ça aussi c'était assez haut dans ma liste. Et après, pour citer, on va dire, peut-être des films de plateforme, moi j'ai beaucoup aimé A House of Dynamite de Catherine Bigelow, qui est donc le film de Netflix. On parlait d'auteurs prestigieux. Ouais. Catherine Bigelow, si c'est effectivement une autrice prestigieuse, il y a bien elle. Et là, effectivement, elle nous fait un film sur qu'est-ce qui se passerait si véritablement le scénario catastrophe d'une attaque nucléaire sur les États-Unis arrivait un jour. Et elle nous explique comment le processus de la Chain of Command s'activerait et qu'est-ce qui se passerait véritablement. Et c'est brillant, j'ai trouvé ça brillant. La fin va faire parler, évidemment, mais j'ai trouvé ça vraiment excitant. Et c'était très, très cool d'avoir ça sur les plateformes de streaming. Et sinon, dans le lot, je dirais évidemment Sinner, je dirais le film d'animation Amélie et la métaphysique des tubes, qui, je trouve, est l'un des films les plus beaux de l'année. Mais on a très, très bien mangé cette année. Un simple accident, La Palme d'Or de Jafar Panahi. Valère sentimentale de Joachim Trier, tu me parlais des films un peu personnels comme ça, Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson, ou encore Zootopie 2, bref, ça te fait comme ça un pêle-mêle, plein de films qui, moi, m'ont conquis cette année.
Ça m'étonne que tu n'aies pas parlé de Frankenstein, par exemple.
Frankenstein aussi, ouais, Guillermo del Toro, moi, c'était un... Mais parce que tu as
eu la chance de voir en salle.
Ouais, j'ai eu la chance de voir en salle, et puis del Toro, c'est un de mes cinéastes dont j'aime bien l'univers, et puis j'attendais ce Frankenstein qui est quand même dans ses tiroirs depuis... pas mal d'années, donc c'était cool de le voir, et merci à Netflix d'avoir mis 100 millions de patates dedans pour lui donner vie. Donc oui, j'étais content. Ouais, donc effectivement, Frankenstein fait partie de la liste, mais c'est vrai, voilà, c'est un peu un entrelac de à la fois ce qu'on a mis nous dans notre top des numériques, à la fois mes petits postes personnels en termes de cinéma.
Tu parlais d'Évanoui tout à l'heure, bon, c'est une des grosses surprises pour moi cette année, hein. C'est vraiment, j'y allais vraiment sans en attendre grand chose. Est-ce que toi, il y a une autre œuvre que celle-là dont t'attendais rien du tout et qui t'a quand même retourné?
Est-ce qu'il y a des films comme ça qui m'ont saisi? Alors il y en a plein, mais c'est vrai qu'il y a un film que j'ai beaucoup apprécié et qui est assez confidentiel, qui passait un peu inaperçu, qui s'appelle The Ugly Stepsisters, qui est donc la moche belle-sœur véritablement, et qui est une relecture un peu horrifique, body horror, fantastique de Cendrillon, mais pas du point de vue de Cendrillon comme le Disney nous l'a montré, mais du point de vue de la belle-sœur qui arrive avec la belle-maman effectivement dans la famille de Cendrillon, etc., etc. Donc, et du coup, c'est une relecture, voilà, un peu horrifique, avec une réflexion sur le corps, la dysmorphophobie, les jugements de valeur sociale et sur le corps des femmes, etc., etc. Et en même temps, c'est très drôle, c'est très caustique, c'est très de l'humour noir, et en même temps, c'est assez gore, et en même temps, et c'est passé un peu inaperçu, et moi, je trouvais ça vraiment formidable.
Tu l'as beaucoup vendu.
C'est l'un de mes films préférés de l'année, mais après, c'est une proposition assez étonnante, et je trouve que...
Il faut que je le rattrape là.
Ouais, m'a bien conquis comme projet. Je trouve ça très cool quand on refait des contes bien connus à une autre sauce. Je trouve ça très intéressant.
D'ailleurs, c'est amusant de se dire qu'il y a eu une tendance récemment, où les films horrifiques autour du corps, corps de la femme, on a eu
Body
The Substance.
Body horror,
il y a une thématique un
bien
peu
sûr,
là-dessus.
Ouais, c'est intéressant.
bon, on a fait tes tops. Tu te doutes bien que ce qui intéresse le plus les gens, bah, c'est les bouses. Donc, ouais, quels sont tes plus gros flops, tes plus grosses déceptions, que ce soit en ciné ou en série?
Alors, c'est vrai que j'ai parlé de mon top ciné, j'ai pas parlé de mon top série, mais rapidement, mon top série, ça aurait été peut-être The Pit, Adolescence, The Studio, la série Astérix Obélix, Le Combat des Chefs de Chabat, et Welcome to Derry, qui est donc la série Ça, Bienvenue à Derry sur HBO Max. Ça, ce serait vraiment mes top séries. Alors, flop, j'ai peut-être été déçu par véritablement. La saison 2 de Severance, j'en attendais énormément. 3 ans d'attente pour une saison 2 qui pose plus de questions qu'elle ne donne de réponses. C'est vrai que c'était effectivement assez frustrant. Alors, c'est toujours magnifique, c'est toujours aussi intriguant et excitant de plonger dans cet univers vraiment à part. Mais c'est vrai que je n'ai pas pu cacher ma déception quand même face à une saison 2 qui était un peu chiche pour son spectateur. Après, je pourrais parler de Pluribus, la série de Vince Gilligan, qui m'est un peu tombée des mains. J'avoue, il y a beaucoup de gens qui ont aimé, mais je trouvais que voilà, c'est une série qui était vraiment, ouais, qui m'est tombée des mains. Je savais pas trop quoi dire de plus. Et en film, côté film, le Superman de James Gunn, je suis passé à côté, j'ai pas été très fan. Et peut-être qu'Avatar 3, mine de rien, James Cameron, je fais partie des gens qui commencent un peu à en avoir marre des films de 3h15 qui racontent des choses aussi basiques que les méchants sont les humains et la Terre, c'est bien.
J'allais
non,
dire,
voilà, non,
il y a forcément une œuvre que tout le monde a encensé, ouais, et que c'est... toi tu ne comprends pas, et de ce que j'ai cru comprendre, on termine l'année avec Avatar 3 et il rentre, il coche,
ouais,
toutes les cases.
C'est ce que je dis dans ma critique sur le site, c'est que les gens qui kiffent Avatar et qui ont kiffé Avatar 2 vont kiffer Avatar 3 parce que c'est un spectacle vraiment du jamais vu, et James Cameron est le grand cinéaste qu'il est, et on va dire il deliver véritablement, il donne le spectacle qu'on attend. J'avoue que moi, je n'ai pas été conquis par ce 3. Je trouve que véritablement, c'est un film qui est plus dans la redite, dans la répétition, et qui en fait beaucoup trop pour ce que ça raconte. Et je trouve ses personnages sont écrits très pauvrement. Toutes ces additions, Varang, le nouveau peuple, la tribu du feu, etc., il n'en fait rien du tout. Bref, je trouve que c'est un film qui loupe justement l'étape supérieure qu'il aurait dû amener, une sorte de conclusion comme ça à la trilogie Avatar, avant de nous amener vers le 4 et le 5 qui sont déjà prévus. Voilà, je trouve que c'est un film qui a beaucoup de défauts et qui est plus un 2,5 qu'un véritable 3. Après, encore une fois, c'est moi ce que je lui reproche. J'imagine que les fans de la première heure seront au rendez-vous et l'aimeront, voilà, naturellement.
On peut encore se déplacer au cinéma pour ne serait-ce que voir du spectacle sans se soucier vraiment d'un scénario et de personnages construits ou non.
Ouais, après c'est pas une fatalité, on peut avoir les deux, on peut avoir du spectacle et des personnages bien écrits, hein. C'est pas on va le voir l'année prochaine sans doute avec les films de Spielberg, de Nolan et de Villeneuve.
Ouais, non, ce que je veux
arriver,
dire, c'est est-ce que les critiques positives, c'est des gens un peu aveuglés par leur côté un peu fanzouze, ou est-ce que c'est des gens qui, honnêtement, franchement, disent non, mais moi j'y vais pour du spectacle et le reste, je m'en fiche.
Après, chacun, j'imagine, chacun a ses arguments. Tu vois, moi, la façon dont j'aime Guillermo del Toro, je lui concède plein de choses à Guillermo del Toro, plein de choses assez grossières, plein d'écritures un petit peu ronflante, etc., etc. Il y a des gens qui vont pas du tout rentrer dans le délire de Frankenstein. Moi, c'est mon kiff. Moi, je vais pas du tout rentrer dans le délire d'Avatar. Pour les autres personnes, c'est leur kiff. Et j'imagine que c'est sur le même niveau. Moi, je trouve juste effectivement qu'à ce niveau-là de production, et connaissant James Cameron, à quel point c'est quand même l'un des rares réalisateurs, l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire, je m'attendais quand même à une vraie suite et pas à voir le même film que le 2 finalement. De ça ma déception.
Tu le disais tout à l'heure, on n'a pas eu énormément de films de super-héros. Il y a comme un essoufflement en fait de l'univers un peu super-héroïque, du multivers, tout ça. En revanche, énormément d'IP, de reboot, de suites, de d'hyper-franchisation. C'est quoi ton regard là-dessus?
Alors, je trouve qu'on est peut-être à un point de... On est en période de récession. Hein, donc, effectivement, dit qui dit période de récession, dit retour sur... L'industrie se concentre sur des valeurs sûres parce que l'argent, il y en a moins, parce que les ressources, il y en a moins. Et du coup, effectivement, les studios... dans ces périodes de contrition, on va dire, vont vers des valeurs sûres, et du coup, qui dit valeurs sûres dit franchise. Donc, effectivement, les grands films qui font de la thune cette année, c'est Lilo et Stitch, le live action, Minecraft, c'est Zootopie 2, c'est Jurassic World, et effectivement, les Marvel. Mais, comme on l'a dit avant, il y a quand même des propositions et qui sont sorties du lot cette année. Il y a quand même Sinners, il y a quand même, on l'a dit, Vanouille, il y a quand même des films comme ça qui ont réussi à exister malgré la surabondance de Tenfold. Et ce qui était fou, c'est qu'au-delà d'exister, il y a eu un public pour voir ces films-là. Donc ça veut dire que, mine de rien, quand on propose des films originaux de qualité dans les cinémas et qu'on les met bien en avant quand ils sortent, les gens sont intéressés par ça. Donc c'est pas forcément une fatalité d'avoir cette franchisation. Et je trouve qu'avec l'année 2026 qui arrive, on peut arriver sur une année avec, encore une fois, une proposition avec des films originaux, intéressants, etc. etc. Donc, je ne sais pas ce que je pourrais penser par rapport à ça. C'est juste que c'est le résultat d'une une période économique et d'une industrie qui est effectivement en récession. Marvel va encore tenter d'accrocher 2-3 esprits l'année prochaine avec Spider-Man et Avengers Doomsday, mais on sent que Marvel effectivement est en perte de vitesse et n'est plus la référence industrielle qu'elle était auparavant. Et c'est marrant et c'est bien de voir qu'il y a plein d'auteurs et d'artistes qui prennent le relais derrière, quoi.
Et ces quelques bonnes surprises, tu parlais de Sinners, tu parlais d'Evanoui, c'est dû à un très bon marketing, parce qu'à contrario, on a pu voir des films de grande qualité. On a aimé tous les deux The Running Man, ouais, par exemple. Qui malheureusement ont floppé. C'est dû à une mauvaise communication.
Ce qui est étonnant, c'est que tu peux avoir la meilleure com du monde. Et par exemple, The Running Man a effectivement eu plein de com. Il y a eu plein de promos. Il y a eu plein de gens. Glenn Powell, Edgar Wright. Ils ont essayé de brasser excessivement large et pourtant ça n'a pas marché. Et pourtant ils se sont plantés Tronares, ils ont fait une promo de ouf, et pourtant personne n'y est allé. Donc en fait, Evanoui, il n'y a pas eu de promo et tout le monde y va. Sinners, il a une promo, on va dire, correcte, mais en fait l'idée c'est que c'est plus le bouche à oreille et l'événement, l'espèce de ziguesse que ça a chopé, c'est plus, on va dire, on dirait que le public décide tout simplement ce qu'il a envie de voir, qu'importe la promo. On va dire qu'il y a cette. Les studios ont cette envie quand même toujours de dompter cette masse qu'est le public, qui est une masse qu'elles voudraient mettre dans une seule case, mais en fait qui est plein de personnes, plein d'entités, plein de publics différents qui font les spectateurs. Mais c'est compliqué de la dompter. Et cette année, plus que la précédente, on a pu voir que finalement, ce qui faisait la force d'un film, c'est peut-être le bouche à oreille. C'est l'écho que peut avoir le film sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. Evanoui, plein de gens sont sortis du film en disant « Ah, c'est ouf !» Ils en ont parlé autour d'eux sur les réseaux. Oui. Et du coup, la semaine suivante, les gens y retournaient. Pareil pour Sinners, qui a fait 3 semaines d'affilée, le même chiffre au box-office, 3 week-ends d'affilée. Donc, ça veut dire qu'ils ne perdaient pas de spectateurs de week-end en week-end. Donc, effectivement, ce qui n'arrive quasiment jamais. Donc, effectivement, on se rend compte que finalement, c'est le public avant tout qui décide. Et cette année, c'est le public qui a dit « Ok, ces films-là, on les kiffe. » Et on va être nous-mêmes les porte-voix d'un film plus qu'une promo ou quoi que ce soit.
S'il y a bien un studio qui a fait quasiment carton plein cette année, c'est Warner.
Paradoxalement, d'ailleurs.
Oui, et malgré tout, Warner est à vendre.
Ouais.
Alors, on parle d'un rapprochement entre Netflix et Warner. Il y a aussi Paramount qui est entré dans la danse, mais pour l'instant, apparemment, ça passe à la trappe. Ouais, ça n'intéresse pas Warner. Selon toi, c'est quoi l'enjeu numéro un pour Netflix?
L'enjeu numéro un, c'est une question extrêmement large.
Toujours une quête de crédibilité ou avaler un catalogue?
Pour Netflix, Warner représente un business dans lequel ils ne sont pas encore véritablement, qui est le cinéma. C'est-à-dire que l'exploitation sale, ouais, véritablement. Netflix est dans le streaming. Effectivement, ils ont des films qu'ils diffusent occasionnellement pour leur récompense et pour les Oscars en salle, 2-3 semaines, etc. Mais c'est très, très marginal. Là, effectivement, Warner offrirait à Netflix une expérience que Netflix n'a pas, qui est effectivement la diffusion salle, le circuit salle, bref, toutes des milliers de salles aux États-Unis et dans le monde. Voilà, donc ça, ce serait effectivement. Et en plus, il s'offre l'un des majors, des studios majeurs hollywoodiens, américains, historiques, qui a plus de 100 ans. Et donc, c'est effectivement.
Avec d'énormes franchises,
avec une histoire de ouf. Donc, ça, effectivement, ça les ferait passer dans une autre sphère. Qu'un géant de la tech comme ça, parce que Netflix est avant tout un géant de la tech, ça les ferait passer vraiment dans le monde historique de l'entertainment américain à ce niveau-là. Ça leur donnerait en plus, comme tu l'as dit, des IP, des franchises. Ce que Netflix est en recherche depuis une décennie, voire plus, c'est de se créer des IP, parce que Netflix a très peu d'histoires, et on voit que Stranger Things s'achève là cette année. Ils vont essayer de continuer la franchise, mais c'est une fin de cycle. The Crown s'est achevé l'année dernière, Squid Game s'est achevé là. Donc effectivement, avoir Warner, ça leur donnerait plein d'IP, et on l'a vu, on en a discuté juste à l'instant, les franchises, c'est aussi ce qui ressort en haut du box-office à la fin de l'année.
Maintenant, pour les spectateurs, avantage ou risque?
Bah, en fait, ce qui va se passer, c'est que déjà on est vraiment au début du processus. Donc, s'il arrive quelque chose, ce rachat sera effectif pas avant 2027, véritablement. Donc, on aura vraiment encore le temps d'en parler. Mais ce qui est sûr, c'est que si Netflix rachète bel et bien Warner, et donc rachète bel et bien HBO, etc., et toutes les autres chaînes, il y aura un rapprochement, ce soit sous la forme de bundle, soit il y aura Netflix et HBO qui seront effectivement proposés en bundle, donc en package, pour une somme plus importante, un peu à la Canal+. Hein. Vous avez des abonnements en France qui sont à 25 euros, 30 euros, 35 euros, voire plus sur Canal+. Et ben Netflix va peut-être un peu plus tendre vers devenir ce qu'on appelle un agrégateur de contenu, un peu comme Canal+. Du coup, je vois aucun intérêt de Netflix d'absorber HBO, par exemple, ou d'absorber HBO Max, en tout cas pour l'instant, dans les premières années, parce que HBO est une marque tellement forte que la faire disparaître dans l'écosystème Netflix serait vraiment la diluer et ce serait vraiment pas très bénéfique. Par contre, garder la plateforme HBO Max, la ribander un peu, mais la garder vraiment à part et en faire un package rattaché à Netflix d'une façon ou d'une autre, mais pas tout à fait dans le même écosystème, ça me semble effectivement vers quoi on se dirige. Mais du coup, ça veut dire que ton abonnement, il n'est plus forcément à 17, mais il passe à 25 et il passe à 30. Mais du coup, une fois que tu as Netflix et HBO Max, c'est comme une fois que tu as Canal+. En fait, nous, en France, on a Canal+. Une fois que tu payes 35 balles par mois pour Canal+, ciné-série, tu as Canal+, Disney, Netflix, HBO Max, machin, tu n'as besoin de rien d'autre, en fait.
Ouais.
Bah, Netflix veut faire la même chose. Ils vont faire payer les gens 50 balles, mais au moins, ils n'auront rien besoin d'autre.
Pour la création, avantage ou risque également ?
Et risque, parce que en fait, la création se développe quand il y a le plus de possibilités d'horizons de création. Si tous les gens qui donnent l'argent, qui donnent les moyens pour la création, sont dans les mains d'une seule entité, que ce soit Netflix, Warner ou machin, plus l'entité est grosse, plus il y a un monopole véritablement, bah, du coup, tous ces moyens-là sont dirigés que par deux mêmes mains ou une même entité. Et du coup, ça veut dire que tu perds en diversité. Alors effectivement, Netflix a tendance à rassurer les acteurs et l'industrie en disant non, on laissera effectivement HBO ou Warner faire leur truc dans leur coin, on respectera leur ligne éditoriale, etc., etc. Mais à la fin, il y a quand même une seule personne qui met de l'argent. Et on le voit aujourd'hui effectivement avec Disney ou avec Paramount ou avec machin, on sait que ceux qui payent en haut, s'il y a quelque chose qui sort à la télévision ou au cinéma dont ils ne sont pas d'accord, on sait qu'il y a des retombées. On le voit avec Trump aujourd'hui, dès que Trump gueule, ça se ressent directement à la télévision américaine ou dans les studios de cinéma. Donc effectivement, il y a un vrai choix politique. Et ce rapprochement est massif, pose des questions de trust et d'antitrust et donc de monopole. Et plus tu as un monopole, plus tu as des gros groupes qui monopolisent le plus de ressources, plus c'est dangereux pour la diversité
et l'équilibre même du
marché. Et l'auteur
et
de l'industrie. Mais c'est aussi une des résultantes de la récession. Plus tu as une récession, plus forcément tu vas avoir des fusions. Si on était dans une période de prospère, il y aurait une diversification des studios et tu aurais plein de studios et tu aurais plein de voix différentes et tu aurais plein de voix très différentes qui se feraient entendre et ce serait... assez intéressant, comme ça a pu être le cas dans les années 90, par exemple, aux États-Unis, avec plein de studios indépendants, Miramax, etc. Là, effectivement, on n'est plus dans cette période-là. Donc c'est effectivement, ça pourrait être quelque chose de dangereux pour, on va dire, la diversité et la richesse de la création cinématographique audiovisuelle.
S'il y a bien un secteur qui craint un peu cette fusion, c'est l'exploitation en salle, c'est les exploitants qui redoutent que les films, finalement, n'arrivent plus jusqu'à eux. Peut-être Sarandos, dans le patron de Netflix, a garanti que le cinéma resterait prioritaire. Maintenant, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Toi, tu vois l'avenir comment ?
Alors, je pense que les promesses n'engagent que ceux qui y croient, effectivement. Je pense que Ted Sarandos, son business principal de Netflix, c'est le streaming. C'est pas forcément le cinéma. Après, lui, il achète. En tout cas, Netflix achète Warner. Donc, ils l'ont dit et ils ont, encore une fois, pas trop intérêt à acheter quelque chose qu'ils vont saboter derrière. Ça n'a aucun sens, industriellement parlant. Par contre, ce qu'il a dit vraiment, c'est que les fenêtres avec des exploitations sales qui font plus de 90 jours, même plus de 70 jours avant d'arriver sur le streaming, pour lui, il trouve ça effectivement aberrant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y en a un peu de tout dans le paysage cinéma américain. On peut avoir des films qui, au bout de 3 semaines, sont déjà proposés en streaming. 3 semaines après sortie salle, sont déjà proposés en streaming. Il y en a d'autres qui attendent 200 jours. Ouais. F1, il a attendu 6 mois avant d'être disponible en streaming.
C'est totalement aléatoire.
Et voilà, c'est totalement aléatoire. Ouais. Aujourd'hui, il semble, si on regarde un petit peu les datas à ce niveau-là, il semble que Warner le fait déjà tout seul, même sans Netflix. Warner propose déjà des films 45 jours après en streaming. Il peut trouver un point d'équilibre autour du 60-70 jours. C'est-à-dire qu'un film serait exclusif en salle pendant 2 mois et au bout de 2 mois, pam, il passera en streaming. Il pourrait effectivement se fixer là-dessus pour régler une sorte de chrono des médias américaines un peu autour de ça. Mais encore une fois, ça va dépendre et il peut faire du cas par cas. En fait, actuellement, Warner et tous les autres studios américains, donc hors Netflix, même sans Netflix, ils font du cas par cas. Si un film se plante au box-office américain, ils disent « Ok, on coupe court leur exploitation salle et on le fout en streaming, on perdra moins de thunes ». Là, c'est la même chose. Si un film il marche bien en salle, ils vont le laisser en salle. Donc Netflix, je pense...
Et ça laisse plus vraiment de temps au film de se faire une vie.
Ben, en fait, je pense qu'ils ont un truc très pragmatique qui est que ben, si un film ne rapporte plus de thunes de semaine en semaine, ça n'a aucun... si les gens ne vont plus voir le film de semaine en semaine, ils vont l'enlever, en fait. Donc, en fait, ils ont un truc de... Il n'y a plus, comme en France, une chronologie média qui va préserver ces moments-là, ces chapitres-là, en disant, OK, on est obligé de garder 4 mois en salle, après, on passe à la VOD, à la SVOD, machin, machin, machin. Non, là, je pense qu'ils vont être un peu plus fluides par rapport à ça, et ils vont dire simplement, si un film marche, on le laisse en salle, si un film ne marche pas, on le fout directement en streaming. C'est juste qu'effectivement, il faudrait avoir une sorte de un truc qui protège, qui ferait qu'il y aurait un minimum quand même de durée en salle pour que les salles puissent fonctionner. Parce qu'encore une fois, derrière les salles, vous avez des exploitants, vous avez des gens qui travaillent, vous avez des employés, vous avez des employeurs, vous avez des... bref, vous avez un business. Et si on ne met plus de films dans les salles de cinéma, il y a des films de cinéma, les salles de cinéma ferment tout simplement. Et les gens perdent le travail. Et voilà. Alors effectivement, Netflix et les streamers auront plus d'argent, mais les gens ne sortiront plus et ne se verront plus dehors et ne vivront plus une expérience... communale et sociale folle qui est de voir un film en salle.
Eh bien, j'ai l'impression que 2026 va être plein de rebondissements. On sort le popcorn ?
On sort le popcorn parce que 2026 va être une année assez formidable. Il y a énormément beaucoup de films prometteurs qui sortent. On a cité le Nolan, le Spielberg et d'autres, mais voilà, Dune 3, Supergirl, on a le Marty Suprême de Timothée Chalamet, on a le nouveau Park Chan-wook, on a le nouveau Greta Gerwig, on a énormément de films passionnants qui vont arriver en salle.
Même pour les enfants, le retour de certaines franchises,
bien
dans
sûr,
Super Mario,
exactement,
Toy Story,
tout à fait, le nouveau Pixar, bref, il y a pas mal de choses. Donc ça, c'est vraiment, 2026 va être une année riche en émotions et en films.
Pour terminer, s'il y a une série ou un film que tu voudrais conseiller les yeux fermés, que tu as vu en 2025, même si ça ne date pas de cette année, que tu voudrais conseiller aux gens là maintenant?
En série, j'ai revu Rome, moi. Rome, qui est une sorte de, effectivement, la série HBO des années 2000, qui est une sorte de proto Game of Thrones, qui dure que 2 saisons, mais qui est toujours effectivement bon à voir ou à revoir si vous aimez Game of Thrones. Vous revoyez Rome et vous vous dites, ah d'accord, HBO en fait avait déjà posé le blueprint de Game of Thrones avec Rome. Il y avait déjà tout en place pour 5 ans plus tard refaire cette formule avec Game of Thrones. Donc Rome, effectivement, c'est une série que je conseillerais si vous l'avez pas déjà vue. Et en film, il y en a tellement, mais j'ai revu Minority Report, c'est formidable. Non, Minority Report. Rematé Minority Report. C'est intéressant. C'est bien.
Minority Report et Rome côté série. Merci Thibaut.
Merci à toi, Julien.
C'est l'heure de faire chauffer le popcorn la semaine prochaine, saison 2, avec un retour sur le CES, de nouveaux invités et une formule qui va évoluer progressivement. À vendredi prochain. Ciao.
Retrouvez l'émission ainsi que tous les podcasts des numériques sur notre site lesnumériques.com et vos plateformes de streaming préférées.